Tout de suite, Local Actu. L'actualité locale.
Nous recevons aujourd'hui trois représentants du RIM qui vont nous parler de leur métier. Alors nous allons d'abord rappeler rapidement ce qu'est le RIM. Et puis d'abord vous allez vous présenter chacun votre tour. Bonjour.
Bonjour, moi c'est Rémi Chastenet. Je travaille au RIM, donc le réseau des indépendants de la musique. Et je suis accompagné de Guy et Laurent.
Donc, bonjour, Guy Garcia, donc, je suis le directeur et le programmateur donc, du Sans Réserve Périgueux.
Bonjour, Laurent Lapierre, je suis régisseur général du Sans Réserve à Périgueux.
Alors, le RIM, on revient rapidement, on en a déjà beaucoup parlé sur cette antenne, mais on ne sait jamais, il y a encore peut-être quelques auditeurs qui ignorent ce qu'est le RIM. Alors Rémi, je vous laisse la parole.
Oui, merci. Déjà, c'est vrai que c'est la troisième fois, je crois, qu'on a l'occasion de venir dans les studios, accompagné de certains de nos adhérents, ce qui est aussi le cas aujourd'hui, hein, puisque le RIM est un réseau d'acteurs de musique actuelle régionale, donc sur le territoire de la Nouvelle-Aquitaine, qui est un héritage de d'une fusion en fait d'anciens réseaux régionaux d'acteurs de musique actuelle, mais qui étaient positionnés sur les anciennes régions, donc en Poitou-Charentes, en Limousin, et puis aussi un réseau pour faire très vite de labels indépendants en Aquitaine, en ex-Aquitaine.
Donc un réseau basé sur les musiques actuelles et dont nous avons deux représentants aujourd'hui qui travaillent donc au Sans Réserve, une scène bien connue de Périgueux. Alors je vais m'adresser à tous les deux, vous avez deux métiers très importants dans le domaine des musiques actuelles, dans une salle de concert comme la vôtre, la programmation et la technique. Alors qui veut commencer ?
Je veux bien parler un peu de la programmation. Alors, on parlait un peu des SMAC en général, hein, et je crois que chaque SMAC est un peu particulière aussi par rapport à son histoire. On a parlé pas mal hier un peu, enfin, de cette histoire-là, mais aussi du projet, de la structure, mais aussi des moyens qui sont dévolus, mais aussi de la taille de l'équipement. Voilà. Et à partir aussi de ça, chaque structure en fait développe son propre projet artistique et culturel. Sur un territoire qui peut être plus ou moins grand aussi, suivant si on est en milieu rural, si on est en milieu urbain, etc. Quoi. Et donc notre projet, nous, il s'articule autour de trois axes. La création et l'accompagnement donc des pratiques, l'action culturelle, dont on en a déjà un peu parlé, et du coup le troisième volet qui est la diffusion, ou ce qu'on dit aussi la programmation. Et la programmation, en fait, elle est faite de manière un peu singulière, peut-être liée aussi à l'historique du lieu. C'est qu'au Sans Réserve, il y a à peu près 60% de la programmation qui est co-construite avec des acteurs locaux, qui ont été au nombre de 25, je crois, à peu près, sur l'année 2017. Hein, de 25, donc, acteurs locaux, hein, principalement tous associatifs.
Quoi. Sur combien de concerts, à peu près ?
Sur une quarantaine, à peu près, de concerts, voilà. Donc ça, c'est un peu singulier parce que ça veut bien dire que et puis je sais pas des 20 mots quoi, qu'on utilise régulièrement, mais quand on parle de co-construction de programmation, ça veut dire qu'il y a des choix qui sont faits et partagés entre le ou les acteurs associatifs sur une programmation qui a été décidée en fait ensemble et nous, le Sans Réserve, quoi.
Et donc ces choix, ils portent sur les groupes à inviter, mais aussi sur, je ne sais pas moi, la scénographie, sur plein de choses pendant le concert ?
Alors oui, quand on parle de scénographie, enfin, sur certaines esthétiques, oui, il y a des choses qui sont plus scénographiées que d'autres, avec des visuels, de la vidéo, effectivement, oui, c'est des choses qui sont faites ensemble. C'est des choix aussi budgétaires qui sont portés dedans, quoi, hein. Ça peut être aussi des choix de communication qui sont faits ensemble pour voir, du coup, comment chaque entité, chaque association peut mettre ses compétences au service du projet de diffusion qu'on va réaliser.
Donc là, la coproduction, la coordination avec les associations, c'est une des pierres angulaires du Sans Réserve. Mmh. Et qu'est-ce que ça apporte justement de travailler avec d'autres associations ?
Eh bien, il ne faut pas oublier qu'on bosse pour des publics. J'essaie tout le temps de me refuser à dire qu'il y a un public au Sans Réserve. Non, il y a des publics quoi, qui sont très larges et très divers. Hein. Et je pense que, avec un peu de recul que j'ai maintenant, que le fait d'avoir une multiplicité en fait d'acteurs qui sont très pointus dans leur domaine d'activité, ça peut permettre effectivement, et ça permet d'enrichir une diffusion de manière esthétique le plus large possible. ce qu'on n'aurait pas forcément quand on a une seule sensibilité en fait, d'acteur qui est sur un territoire.
Quand on est en charge de la programmation d'un lieu comme le Sans Réserve, est-ce que moi, typiquement, je programmerais que ce que j'aime? Alors, je pense que ça ne se passe pas comme ça, en vrai.
Ben non, bien sûr que ça se passe pas comme ça. Alors, il y a un petit côté intrinsèque dedans sur lequel, oui, il y a forcément des choses qui nous parlent plus que d'autres, mais bien entendu que ça peut pas se passer comme ça et que on en parlait un peu dans le cadre des missions qui nous sont dévolues dans le cadre du cahier des charges SMAC. On se doit effectivement d'aller essayer de toucher un peu toutes les esthétiques que composent ces fameuses musiques actuelles, même si notre projet, nous, il est bien ancré en fait sur les musiques dites amplifiées, quoi. Mais bien entendu qu'on se doit d'essayer de toucher un maximum de publics divers, et on le fait aussi du coup avec des esthétiques différentes. Voilà.
Et concrètement, comment on fait pour aller chercher des nouveaux artistes, des choses qui vont plaire aux nombreux publics du coup ?
Ben, y a plusieurs modes, plusieurs méthodes, plusieurs solutions. C'est que soit effectivement on a le cas typique plus classique de professionnels, qu'on appelle donc des tourneurs, des gens qui vont être censés en fait d'organiser une tournée pour le groupe, quoi, et du coup de proposer des dates à nous en tant que diffuseurs et organisateurs. Voilà. Donc ça peut être ce premier créneau-là. Le deuxième temps, ça peut être aussi nous qui allons en fait, alors soit seuls, soit avec des associations ou des associations seules, qui vont aller aussi faire la démarche d'avoir entendu parler d'une tournée de tel groupe ou d'avoir envie d'aller sur une esthétique et du coup d'essayer de se renseigner sur ce qu'il en est. Et puis après, il y a aussi, et là c'est un peu le manque de temps, hein, c'est d'aller aussi sur le terrain, voir ce qui se passe, quoi. Donc il y a des terrains très facilitants comme ça, sur ce que sont les festivals. On peut voir un maximum de groupes en un minimum de temps, et c'est effectivement bien quand on peut y passer effectivement du temps, quoi. Voilà un peu les divers créneaux qui peuvent avoir, soit des sollicitations directes, ou nous on va solliciter les groupes par divers créneaux.
Donc les festivals qu'il y a dans la région, ou même un peu partout en France, c'est plus intéressant quand on voit pas les mêmes têtes partout.
Oui, mais je crains que ce choix se resserre un peu, si je peux le dire comme ça, quoi.
C'était bien mon...
Je voyais bien.
Et oui, parce que c'est ça un petit peu le problème en ce moment dans les festivals, c'est qu'on retrouve des grosses têtes d'affiche un peu partout, les mêmes. Ça devient difficile de trouver, de renouveler la programmation.
Alors, je crois clairement qu'entre des gros festivals et une SMAC comme le Sans Réserve, on est sur des métiers différents. Il y en a qui relèvent de l'économie et d'autres qui relèvent de l'économie sociale et solidaire. Et il y a un grand pont, je trouve, alors que peut-être vu de l'extérieur, on pourrait dire c'est un peu la même chose, ils font de la musique, enfin voilà, quoi. Et je pense que non, on est sur des métiers qui peuvent sembler similaires, mais où le fond, en fait, est bien totalement différent. Nous, on est vraiment sur un outil de développement culturel, quoi.
Et est-ce que c'est le fait de justement d'être présent sur le territoire toute l'année, ou est-ce que vous fonctionneriez de la même façon si c'était un événement ponctuel ? C'est vraiment votre façon de faire ?
Alors, on a déjà été un peu confronté à un moment à ça, où on avait envie de pouvoir étayer un peu tout le boulot qu'on faisait à l'année et de pouvoir le ponctuer par un événement de type petit festival. On avait été voir pas mal de partenaires potentiels derrière. Et les premières réponses qui commençaient un peu à pointer, c'est de dire oui, ça peut nous intéresser. Ce qui brille, ça intéresse aussi pas mal, quoi. Mais par contre, ça risque d'être effectivement au détriment de ce que vous pouvez construire en fait à l'année, quoi. Chose sur laquelle on a bien sûr fait machine arrière, quoi.
Oui, finalement, mieux vaut mettre en valeur tout le travail tout au long de l'année.
Oui, en fait, c'est une évidence, moi, je suis convaincu, quoi.
Et donc, évidemment, les concerts, qui dit musique, dit technique. Et donc, je vais me tourner vers notre troisième invité, qui, est un peu celui sans qui rien ne serait possible.
Oui, mais bon, je suis pas tout seul non plus, parce que je pourrais pas tout faire tout seul. Donc, le boulot du régisseur général, c'est avant tout déjà beaucoup de préparation. Parce que on s'imagine souvent que les artistes arrivent le jour J et tout est réglé et tout ça. Et en fait, on a très peu de temps. Ils arrivent dans les musiques actuelles, ça va quand même assez vite. Ils arrivent en début d'après-midi, faire des balances qui sont relativement courtes. Et pour jouer après, très rapidement, enchaîner le concert du soir. Donc en fait, si on n'a pas fait tout un boulot de préparation en amont, on perd en efficacité, on perdrait notre temps, le peu de temps qu'on a le jour même. Donc en fait, mon premier, euh, mon premier boulot, c'est ça, c'est bien organiser en amont la venue du groupe et de son équipe technique, surtout. Alors concrètement, en fait, on reçoit des dossiers, en fait, des fiches techniques ou des dossiers techniques qui récapitulent un peu les besoins, les demandes en termes techniques, mais pas que, parce qu'il y a aussi le côté hébergement, repas, etc. Donc moi, je centralise un peu tout ça et puis après, il y a une petite part de négociation qui s'enclenche à dire, voilà, ben, nous, on peut... ça on n'a pas, est-ce qu'on peut proposer une équivalence, est-ce qu'on doit le louer, est-ce que voilà. Donc il y a tout ce boulot-là qui est très très important et qui détermine après la bonne ambiance du jour J. voilà.
Vous le disiez, vous n'êtes pas tout seul, donc vous centralisez un peu toutes ces demandes et il y a une équipe au Sans Réserve qui s'occupe de la lumière, du son, ou ce sont les équipes des artistes?
Alors en fait, moi je suis tout seul en tant que permanent, salarié du Sans Réserve, et après j'embauche ou je fais venir des techniciens supplémentaires, puisque en gros il y a trois postes principaux qui sont le son pour le public, le son de façade, le son de retour sur scène et la lumière. Donc là il faut au minimum trois personnes pour gérer ça. Donc
certains groupes viennent avec leurs techniciens?
Oui, mais ça, même s'ils viennent avec leurs techniciens, nous, il faut qu'on ait des techniciens d'accueil, en fait, pour leur montrer, encore une fois, comment le matériel n'est pas toujours le même. Il y a des fois un petit besoin, un petit temps d'adaptation, donc leur montrer tout simplement, voilà, les mettre en confiance et puis les assister s'il y a besoin. Donc dans tous les cas, que le groupe vienne avec une équipe technique ou pas, nous, on est toujours présents de toute façon pour les accueillir.
Est-ce que votre rôle, c'est de dire oui à tout ?
Non, je crois pas.
Je confirme.
Non, je crois pas. Vous avez une idée en tête ou...
Non, mais est-ce que des artistes sont venus avec des demandes extraordinaires que vous ne pouviez pas ou que vous ne vouliez pas
Oui, c'est arrivé. Après, c'est plus d'ordre souvent technique, quoi, finalement. Il y a des choses où on ne peut pas parce que techniquement, on n'a pas la place, par exemple, d'accrocher autant de projecteurs ou, voilà, ou de faire rentrer un certain nombre de matériel ou de décors ou de musiciens parce que la taille de la scène ne le permet pas. Enfin, voilà, des choses assez pragmatiques. Après, oui, des demandes un petit peu exotiques, un petit peu olé olé, il y en a, mais non, on n'est absolument pas obligé d'y répondre de manière
Ça fait partie des négociations.
Absolument, voilà, ça fait partie des négociations. Absolument, il faut aussi que les artistes peuvent jouer dans des lieux très différents quand ils sont en tournée. Ils peuvent passer un soir d'une salle comme La Note de 500 places, jouer le lendemain dans un lieu beaucoup plus grand ou au contraire dans un bar. Donc après, ils ont aussi une fiche technique un petit peu type qu'il faut aussi des deux côtés, enfin, adapter suivant le lieu, suivant les budgets et tout ça.
Au Sans Réserve, il y a, on va dire, deux scènes différentes. Il y a la scène principale et puis parfois, il y a des concerts au bar. En termes de technique, c'est plus léger ou c'est la même chose ?
Non, c'est plus léger, oui. C'est plus léger parce que l'espace est plus réduit, donc on ne peut pas déployer de toute façon autant de matériel. Et puis ça ne se justifie pas non plus. Il y a des choses qu'on n'est pas obligé de sonoriser, par exemple la batterie, on va pas forcément tout sonoriser vu que l'espace est assez petit et ça fonctionne de manière en acoustique, donc c'est pas non, ça demande évidemment beaucoup moins de mise en œuvre technique quand c'est des concerts au bar. Ouais.
Et n'importe quel instrument peut venir jouer sur la scène du Sans Réserve?
Ah oui, je pense, oui.
Il n'y a pas de particularité sur un instrument qui demanderait plus de technique qu'un autre?
Non, après, on est quand même régulièrement ces instruments un peu, on va dire, traditionnels qu'on voit, mais des fois, il y a des choses un peu plus pointues. Après, on se renseigne si on a des doutes, comment les techniques de sonorisation de ces instruments-là, ou en général, le musicien qui utilise cet instrument a déjà peut nous conseiller aussi. Voilà. C'est un échange, en fait, beaucoup... entre les techniciens qui encadrent l'artiste et puis aussi l'artiste lui-même, puisqu'il a besoin de nous parler, nous dire son ressenti sur scène, pour le son, etc. Donc nous, on est vraiment... on se doit d'être à l'écoute et puis au service de ces gens-là pour rendre déjà les mettre dans les meilleures conditions pour qu'ils fassent un beau spectacle pour le public, quoi.
Et est-ce qu'il faut être forcément musicien pour être technicien ?
Forcément non, mais je pense que ça, c'est un plus, parce que on parle pas la même langue, les techniciens parlent pas la même langue que les musiciens, et ben quand on a des techniciens qui sont musiciens, ça aide. On peut se comprendre plus rapidement.
Ça fait un langage universel.
Ouais, absolument. Ouais.
Merci beaucoup à tous les trois d'être venus nous présenter donc ces métiers des musiques actuelles.
Merci, au revoir.
Merci.
C'était Local Actu. Des informations d'actualité locale.